Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La façon de s'apercevoir pour la patiente que sa grossesse s'arrête va être très variable d'une patiente à l'autre.
Enfin, c'était un choc. Au moment de l'échographie, du coup, on m'a annoncé qu'il n'y avait pas de cœur. Se dire si on va réussir à avoir un enfant, c'est surtout accepter qu'on ne puisse pas maîtriser les choses.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Bonjour Flora, bonjour Mathilde, je vous en prie, installez-vous.
Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Flora ?
Alors, je viens aujourd'hui pour parler de mon parcours gynécologique et parler de mes fausses couches.
Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, j'ai fait 3 fausses couches.
Mm-hmm.
D'ailleurs, c'est un terme qui me gêne un peu parce que pour moi, c'est pas des fausses couches, c'est des grossesses qui se sont arrêtées. Donc, c'est déjà quelque chose qui me tient à cœur de dire. Et donc, j'ai fait donc 3 grossesses arrêtées.
Mm-hmm.
J'ai pas évacué naturellement ces grossesses. J'ai eu 2 curetages, dont une fausse couche spontanée.
D'accord.
Voilà.
Donc, pour préciser peut-être le curetage, donc c'est une intervention médicale pour enlever ce qui était en vous.
Oui, voilà, tout à fait. J'ai eu la première fois où je suis tombée enceinte, on a au départ essayé de prendre les médicaments pour que ça puisse être provoqué, à domicile, à la maison. Ça a été un échec et donc du coup, je suis ensuite passée au bloc pour... faire le curetage.
À quelle fréquence vous avez eu ces 3 grossesses arrêtées ?
Alors, le souci chez moi, c'était pas forcément de tomber enceinte parce que ça venait assez vite. Donc, en fait, tous les 6 mois, voilà.
D'accord. Donc, les 2 premières fois, c'était des grossesses arrêtées. Et puis, la 3e fois, vous disiez une fausse couche spontanée.
Alors, c'est au milieu, en fait. La première fois, grossesse arrêtée. La 2e fois, en fait, j'ai su que j'étais enceinte et l'évacuation s'est faite assez rapidement. Naturellement, j'ai pas pris de médicaments et voilà.
D'accord.
Et la 3e fois, à nouveau, un curetage.
Est-ce que vous avez senti, Flora, que ça allait arriver, qu'il y avait des prémices, des choses qui pouvaient vous donner des indices que la grossesse allait s'arrêter ?
Alors non, la première fois, c'était assez... c'était un choc. Au moment de l'échographie, du coup, on m'a annoncé que, il n'y avait pas de cœur.
C'était à une échographie à quel stade de votre grossesse ?
J'étais à 9 semaines d'aménorrhée. Un moment un peu compliqué parce qu'en plus, au moment de l'annonce, forcément l'émotion est arrivée. J'ai pleuré et le médecin qui m'a fait l'échographie m'a demandé d'arrêter de pleurer, de ne plus bouger parce qu'il fallait terminer l'échographie. Donc j'en garde vraiment un souvenir assez douloureux. Surtout que la première fois, on ne pense pas forcément à cette éventualité-là.
Ça a été une surprise, vous disiez, un choc?
Oui. Enfin, au moment où j'étais dans la salle d'attente pour l'échographie, j'ai eu une petite idée en me disant, oh, j'espère que tout va bien se passer, mais sinon, j'étais pas du tout inquiète, en fait. Bon, bah, ensuite, pour les deux fois qui ont suivi, effectivement, j'avais beaucoup plus de réserves et c'était des moments plus stressants, finalement.
Vous saviez que ça pouvait arriver.
Voilà. Et donc, bah, on envisage les choses différemment et, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, voilà, que ce soit la première fois, c'est des ascenseurs émotionnels qui sont fatigants et éprouvants finalement. Donc, et les autres fois, bon, c'est une sorte de répétition, mais c'est vrai qu'il y a toujours, toujours ces moments de joie, mais de joie qui sont retenus, et puis d'angoisse et de tristesse. Enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de d'émotions.
Et pour les grossesses qui ont suivi, à chaque fois, vous étiez dans à contenir votre joie.
Ah oui, oui, oui. Il y a ce petit moment où le test est positif et où on se dit ah oui, et puis la suite, elle est beaucoup plus compliquée. Beaucoup plus compliquée.
Elle est plus compliquée comment?
Ben chaque jour, on se dit oh ben un jour de plus. On attend les examens, on attend les résultats de la prise de sang. Les bêta HCG augmentent, c'est bien. Oh, ça augmente pas trop. On se pose des questions. Enfin, tout est finalement plus médicalisé. Il n'y a pas de laisser place à l'insouciance entre guillemets. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué.
Donc vous étiez vigilante à toutes les étapes, tous les signes médicaux, le besoin d'être rassurée par peut-être les professionnels de santé.
Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'était si j'avais pu avoir des échographies tous les jours, tout voilà, ça aurait été c'était pas la solution du tout, mais c'était quelque chose qui était en moi en tout cas bien présent.
Comment vous avez fait alors pour gérer à ce moment-là vos inquiétudes, vos angoisses?
Bah, à ce moment-là de mon parcours, pas grand-chose. J'étais plutôt passive et dans l'attente. C'est après la troisième grossesse arrêtée où là, j'ai pris les choses en main. Et puis, il y a eu quand même un délai de 6 mois où j'étais vraiment pas bien. Parce que c'est vrai que sur l'espace d'un an, ça faisait beaucoup. Et puis, j'ai décidé de me faire aider. Et je vous ai rencontré. Et bon, là, ça a changé beaucoup de choses, finalement. Parce que c'est vrai que jusque-là, j'étais seule.
Oui. Est-ce que vous pouviez en parler à votre conjoint?
Ben, pas tant que ça. Pas tant que ça. Lui-même est assez réservé sur ses émotions. On n'avait pas réellement d'échange. Lui a, pour le coup, beaucoup plus mal vécu la première grossesse, arrêtée. Il a toujours gardé l'espoir et m'a toujours dit qu'on y arriverait. Moi, c'est plus finalement la dernière qui a été celle de trop, je pense. Voilà. Donc, au niveau de la communication entre nous deux, c'était pas non plus très...
En tout cas, là, vous dites qu'il y a eu un décalage entre vous.
Oui.
Donc, lui, voilà, la première fois, alors, vous disiez que ça a été aussi un choc pour vous, mais pour lui aussi.
Oui.
Et puis, lui avait espoir, voilà, était plutôt confiant en l'avenir, alors que vous, finalement, le fait que ça se reproduise une deuxième fois, puis une troisième fois, ça, j'entends un peu cette idée que ça a pu enlever tout espoir pour vous que ça puisse marcher un jour.
Oui, voilà. Tout espoir que ça puisse marcher, se poser des questions sur son couple, alors que la plupart du temps, c'est pas ces questions-là qu'on a envie de se poser quand on a ce projet-là, c'est-à-dire en venir à se demander si on resterait ensemble, si on n'arrive pas à avoir d'enfants, enfin des sujets entre enfin lourds. Au départ, on pense pas à ça quand on veut faire un enfant.
Là, vous nous dites, Flora, que à la fois ça bouleverse personnellement et puis ça peut faire vaciller aussi le couple ou amener voilà des questions, des inquiétudes, voilà de aussi est-ce que le couple va survivre à ces épreuves.
Tout à fait. Oui. C'est quelque chose qui, pour moi, m'a aussi pas mal interrogée. Voilà. Et on n'a pas les réponses, en fait. Donc
comment
c'est
faire
ça.
Avec le doute, l'incertitude.
Voilà. Et bah, que ce soit pour le couple ou même tout court pour se dire si on va réussir à avoir un enfant, c'est surtout accepter qu'on ne puisse pas maîtriser les choses.
À chaque début de grossesse, comment vous envisagiez à chaque fois une nouvelle grossesse?
Alors, mon parcours fait qu'on a commencé à faire des examens au bout de la troisième grossesse arrêtée. Et donc, du coup, ben, pour les autres fois, on essaye de se contenir, mais en même temps, on a envie. Enfin, donc, c'est toujours des sentiments opposés qui font que on veut y croire, mais en même temps, on veut pas y croire. Donc, voilà.
Comment c'est... se protéger? Voilà. Comment faut y croire, mais il faut aussi se protéger d'une déception qui pourrait arriver.
Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça.
Dans tout ce parcours, Flora, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous?
Ça a été, je pense, vraiment l'ascenseur émotionnel à chaque fois. Vraiment. Hein. C'est vraiment ça qui a été le plus dur à gérer. Et c'est pour ça qu'au bout de la troisième fois, ça a suivi une période d'angoisse quand même assez longue. J'étais pas très bien, du coup, dans ma peau.
Il se matérialisait comment, ce mal-être?
Ben, on peut dire, oui, que je me sentais, enfin, angoissée avec des crises d'angoisse. Je me sentais oppressée. Voilà.
Est-ce qu'il y avait de la tristesse aussi?
Beaucoup de tristesse. Oui, beaucoup de tristesse. Et de pas maîtriser, en fait, les choses, surtout. De pas savoir si un jour ce sera possible ou pas. Et surtout que finalement, malgré les examens que j'ai pu faire, j'avais pas de réponse qui était apportée au fait que ces grossesses s'arrêtaient. Voilà.
Comment vous avez vécu le fait de pas avoir de réponse médicale et d'explication médicale à ce qui se passait?
Ben, au début, à chaque fois qu'on faisait un examen, je me disais, bah, peut-être que je vais avoir une réponse, donc, bon, bah, super, peut-être que ça va avancer dans un certain sens. Puis finalement, il n'y avait pas de réponse. Et voilà, donc je pensais pouvoir trouver des réponses et en fait j'en avais pas.
Vous disiez tout à l'heure, donc c'est après la troisième fausse couche que vous êtes venue me voir.
Oui.
Qu'est-ce qui a motivé cette démarche pour vous?
Je pense que j'avais besoin d'avancer, de comprendre aussi ce qui se passait parce que je me reconnaissais pas forcément. Je suis pas de nature à être angoissée, enfin. Mon état je pense, 6 mois qui a précédé notre rencontre, c'était pas réellement moi. Et j'ai senti que j'avais besoin d'aide et de soutien que j'arrivais pas à trouver.
Voilà. Du coup, voilà, vous disiez que avec votre conjoint, ça pouvait être compliqué, que vous vous sentiez pas très soutenue par lui. Est-ce que dans vos entourages, vos amis, votre mère, est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu vous soutenir?
Oui, alors il y a toujours de la bienveillance de la part de notre entourage, que ce soit de mon ami ou de mes amis. Mais c'est vrai que, mis à part cette bienveillance, on n'avance pas, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que j'avais besoin de plus.
Qu'est-ce qui vous a apporté, alors, le travail qu'on a pu faire ensemble?
Il m'a énormément apporté. Ce que je dis toujours, c'est que je pense que si j'avais pas vécu ça, je vous aurais jamais rencontré. J'aurais pas avancé autant d'un point de vue personnel. Voilà. Ça m'a permis de me faire un cocon, de faire de la place pour la suite, de m'autoriser à penser que ça pouvait être possible et d'y croire.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Eh ben, je suis tombée enceinte à nouveau et puis j'ai une petite fille maintenant. Voilà, qui a 18 mois. Vous m'avez accompagnée pendant toute la grossesse, qui a été assez difficile à vivre de par mon passé. Et puis
est-ce que pendant la grossesse vous aviez le sentiment qu'il y avait toujours cette inquiétude que ça s'arrête?
Oui, ça, c'est, cette idée est toujours restée en moi, avec des moments un peu plus importants que d'autres. Mais c'est vrai que oui, l'idée était là. J'avais envie que tout soit, que rien ne bouge, que tout soit immobile. Pour preuve, hein, j'ai un peu, je pense, somatisé aussi, voilà. Durant ma grossesse, j'ai eu une cruralgie dès le départ, donc j'ai été arrêtée assez tôt. Voilà, c'est une idée, oui, qui est restée. Mais vous m'avez aidée à avancer à chaque fois un peu plus, et puis le temps passait, et puis finalement, voilà.
Le temps qui passait était quelque chose de plutôt rassurant?
Oui, le temps qui passait, et puis aussi à partir du moment où j'ai commencé à sentir mon bébé, ça a été aussi un moment qui m'a rassurée.
Bien sûr.
Voilà.
Merci beaucoup, Flora. Maintenant, je vous propose qu'on rejoigne dans le salon d'à côté le docteur Christine Vada, qui va nous éclairer un peu plus sur ce que c'est que les fausses couches ou les grossesses arrêtées. Bonjour Christine, vous êtes gynécologue obstétricienne, vous travaillez à Paris dans le 6e arrondissement. Beaucoup de mes patientes vivent, comme Flora, des fausses couches, des grossesses arrêtées. Parfois, voilà, comme Flora, c'est la raison qui les amène à venir me voir. Cet événement, il est souvent banalisé, minimisé, réduit parfois au simple aspect médical, alors que, comme Flora vient de nous le dire, c'est émotionnellement des événements qui peuvent être très difficiles et douloureux. Alors, pour nous aider à y voir plus clair, Christine, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fausse couche ?
Bonjour à toutes les deux. Flora, merci pour ce témoignage qui est vraiment l'illustration parfaite du ressenti de la souffrance de nos patientes confrontées à ce genre de situation. Vous avez dit exactement tout ce que ressentent les patientes que je vois dans mon cabinet confrontées à ce problème. Avant de répondre à Mathilde, fausse couche, effectivement, il y a rien de faux dans cette histoire et c'est vrai que c'est une terminologie très ancienne et qui correspond pas bien à la réalité. Ça a été remplacé dans nos sociétés savantes par un acronyme qui est pas forcément plus sympathique. C'est avortement spontané répété. Et c'est AVSR. Donc, on trouve maintenant cette terminologie-là. C'est pas non plus très sympathique comme appellation, enfin bref. Et alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une grossesse qui va s'arrêter avant 12 semaines pour les fausses couches précoces et entre 12 et 22 semaines pour des fausses couches que l'on appellera tardives. Et effectivement, la façon de s'apercevoir pour la patiente que sa grossesse s'arrête va être très variable d'une patiente à l'autre. Parfois, il va y avoir des saignements. Il va y avoir des symptômes qui vont s'arrêter, les nausées vont s'arrêter, une tension mammaire va disparaître, et donc la patiente va s'inquiéter et consulter plus précocement. Mais parfois, et c'est extrêmement traumatique comme vous l'avez raconté, c'est lors d'une échographie, alors que la patiente n'a absolument pas idée que quelque chose s'est passé qui a pu entraîner cet arrêt et donc on va s'apercevoir qu'il n'y a plus d'activité cardiaque et que donc la grossesse est arrêtée. Et ça, c'est extrêmement traumatisant parce que voilà, on est dans l'arrivée dans le cabinet de la gynécologue ou du gynécologue pour une très belle annonce, parfois avec le partenaire. On a eu des tests de bêta-HCG, vous en avez parlé, qui étaient positifs. Et puis, c'est vraiment une déception très importante.
En tout cas, derrière ces termes, fausse couche, grossesse arrêtée, c'est vrai que même d'un point de vue symbolique, le fait que la grossesse s'arrête sans forcément qu'il y ait de symptômes ou de manifestations, ou le fait qu'il y ait une expulsion naturelle, voilà, ça dit pas aussi symboliquement la même chose de ce qui se passe dans le corps.
Oui, et souvent les patientes comprennent pas que on ne va pas forcément trouver d'explication. Et moi, chaque fois que je suis confrontée à cette annonce de la grossesse arrêtée, j'explique d'abord que cette grossesse isolée arrêtée, la première, ça représente à peu près 15% des grossesses, donc c'est quelque chose qui est fréquent, et on ne trouve pas d'explication, on n'a pas d'explication, parce que souvent arrive une culpabilité chez la patiente qui va dire « je travaille trop, j'ai fait de l'équitation, j'ai pris ma Vespa pour aller à mon bureau ». Il y a souvent une culpabilité avec un questionnement. Donc j'explique toujours aussi qu'il n'y a pas de rapport avec une activité sur ces fausses couches précoces, les plus fréquentes. Il n'y a pas de relation entre la façon dont la patiente a mené sa vie, j'entends bien sûr en dehors de conduite dangereuse, mais je veux dire sur une activité professionnelle ou un exercice physique, il n'y a pas de relation. Et donc j'essaie d'aider cette patiente surtout à déculpabiliser. Elle n'a aucune responsabilité dans ce qui arrive. C'est un accident de parcours. Et je travaillais beaucoup avec un professeur, le professeur Tourner à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, qui était très spécialisé dans les fausses couches. Et il disait, il faut tomber enceinte le plus de grossesses possible. Et il y en a une qui passera parce qu'il y a quelque chose également de l'ordre du hasard. Et pour nous qui rationalisons tout dans nos vies qui programmons cette grossesse, qui n'était pas le cas autrefois aussi. Donc tout est programmé, découvert, etc. C'est extrêmement difficile d'accepter l'irrationnel d'un aléa comme celui-là lié au hasard.
En tout cas, d'où l'importance aussi de donner du sens.
Oui, et de l'accompagnement et d'avoir les mots avec cette patiente en disant, en se projetant, voilà, et on sera là dans l'accompagnement de la grossesse qui va arriver et également d'avoir un accompagnement, un support en, psychologique, je pense très très important pour la grossesse à venir quand elle va arriver. Comme vous l'avez dit, Flora, ça va être une grossesse extrêmement chargée de d'angoisse sur est-ce que je vais y arriver parce que mon corps m'a trahi une fois. Donc, est-ce qu'il ne va pas me trahir à nouveau sans que je puisse avoir mon mot à dire?
Bien sûr. Pour revenir, Christine, quels sont les facteurs de risque et les causes des fausses couches?
Alors, dans les causes, c'est celles que l'on va lister dans le bilan qu'on va prescrire aux patientes. Alors, ces trois fausses couches pour Flora, qui a déclenché le bilan. Moi, je déclenche un bilan à deux fausses couches et les centres, maintenant, ont tendance à faire comme cela, même si on trouve encore dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé d'attendre trois fausses couches consécutives sans grossesse entre les fausses couches pour déclencher le bilan. À deux fausses couches, donc on va d'abord éliminer une anomalie chromosomique parce qu'on s'aperçoit souvent quand on analyse le matériel d'une fausse couche qu'il y a des anomalies chromosomiques comme si la rencontre n'avait pas pu se faire entre un spermatozoïde par exemple et un ovocyte qui n'avait pas un capital chromosomique suffisant pour accéder à certains stades du développement. Donc ça, c'est la première des causes. On va rechercher une anomalie chromosomique chez le père ou chez la mère. Ensuite, on va faire un bilan hormonal. On sait que quand la réserve ovarienne baisse, quand une femme devient moins féconde, elle a plus de risques de faire des fausses couches. On va vérifier également sa thyroïde, parce qu'on sait que les hypothyroïdies, pas les hyperthyroïdies, vont favoriser des fausses couches. Et on va doser une hormone qui est la prolactine, qui est l'hormone de la lactation. Et si cette prolactine est augmentée, on sait qu'on va avoir un risque supérieur de fausses couches. Ensuite, on va vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie de l'utérus. Donc, on va faire une échographie et on va faire également une hystéroscopie pour regarder l'intérieur de la cavité de l'utérus. Parfois, on va faire des prélèvements, des biopsies d'endomètre pour faire étudier s'il n'y a pas une muqueuse inflammatoire qui accueillerait mal cette grossesse au moment de la nidation. Et puis, on va vérifier les causes immunologiques. Parce que quand on sait pas trop, on se dit que c'est immunologique et c'est encore ce domaine sûrement qui n'est pas totalement exploré et dont on n'a pas parfaitement connaissance sur différents anticorps. Donc on va lister vraiment toutes les causes des fausses couches sur l'immunologie. Alors après, il y a les facteurs environnementaux, bien sûr, hein, la surconsommation tabagique, le café a été évoqué, mais également les pesticides, donc des facteurs environnementaux.
Ce qu'on appelle aujourd'hui les perturbateurs endocriniens.
Alors, les perturbateurs endocriniens, mais par exemple aussi les pesticides qui vont avoir un rôle. Hein, on s'aperçoit que les agricultrices ont beaucoup plus de fausses couches quand elles sont exposées à certains pesticides. Donc tout ça, c'est de ce que l'on observe. On va ensuite tirer des conclusions, faire des études et voilà. Il y a le facteur masculin, on n'en a pas parlé. Hein, le spermogramme, on va faire des recherches particulières sur ce sperme pour voir s'il n'y a pas de problème d'incompatibilité, mais qui sont pas des vraies incompatibilités, en tout cas pas définitives, mais qui peuvent être une explication et conduire ces patientes, après plusieurs fausses couches, à les orienter vers une fécondation in vitro pour pouvoir sélectionner, par exemple, les spermatozoïdes et faire des techniques spéciales qui vont permettre de court-circuiter cette problématique-là. Je pense également qu'il y a l'école psychologique, c'est pour ça que c'est extrêmement important, parce que quand le corps, enfin quand l'âme et le cœur et la psychologie a perdu la confiance en son corps, ça ne pourra pas marcher et donc il faut redonner de la confiance et ça c'est tout le travail de cet accompagnement, Mathilde, que vous faites avec mes patientes souvent et avec les patientes en général et qui est extrêmement essentiel pour moi.
On va revenir sur cet accompagnement. Vous, Flora, est-ce que vous avez fait tous ces examens dont nous parle Christine?
Oui. J'avais fait tout ce que vous avez dit, plus la salpingographie aussi.
Voilà,
Et on avait trouvé au niveau des anticorps circulant un taux un petit peu élevé, mais c'était pas très concret. Donc finalement, ça n'a pas abouti.
Même si on trouve ces anticorps élevés, on n'a pas d'autre solution que de dire d'essayer. Il y a quand même des protocoles thérapeutiques maintenant. À partir de 3 fausses couches, quand on n'a pas d'explication, on a, et je ne sais pas si vous en avez bénéficié, mais on va mettre les patientes sous des doses élevées d'acide folique, hein, 5 mg, pas les 0,4 que l'on donne à toutes les femmes qui désirent un enfant. On va leur donner également de l'aspégique à faible dose, et parfois même de la cortisone à faible dose. Et ça, c'est un petit peu empirique, mais on s'est aperçu dans les études qui viennent de sortir, j'ai repris la bibliographie pour être un peu précise avec vous, qu'on avait beaucoup moins de fausses couches dans la série des patientes, sur de nombreuses patientes qui avaient eu ce protocole thérapeutique pour ces fausses couches inexpliquées.
En tout cas, là, ce que vous nous avez dit, Christine, c'est qu'à partir de 2 fausses couches, c'est important d'en parler à son médecin.
Oui, absolument. Mais... En pratique, c'est ce qui se fait, je dirais, plus que c'est le médecin qui doit, à partir de 2 fausses couches, déjà, pour aider la patiente à passer ce cap. Et s'il faut rien que de démarrer le bilan, parfois, il y aura une 3e grossesse qui aboutira. Mais dire, voilà, je vous prends en charge, j'ai entendu, et pas dire, bon, c'est rien du tout, 2, voilà, et à 3, on démarre. En fait, c'est tout le discours. C'est pas tellement ce qu'on va trouver du bilan. Mais c'est ce bilan qui va permettre à la patiente de prendre un peu confiance en se disant, bon, on va chercher une explication, ça va aboutir sur quelque chose. C'est toute cette réassurance qu'on va mettre en place qui va aider la patiente.
J'entends bien la complémentarité de la prise en charge médicale qui est indispensable et extrêmement essentielle. Mais là, l'importance de la présence, de l'implication comme vous le faites auprès des patientes et que le fait de prescrire un bilan, bah, c'est aussi d'une manière symbolique dire, comme vous disiez, j'ai entendu, on prend en charge, ça n'est pas rien et on va essayer de trouver ensemble des solutions. Et puis, à côté, voilà, entre autres le travail qu'on a pu faire ensemble, Flora, de vous aider à vous réapproprier aussi ce qui pouvait se passer dans votre corps.
Oui, parce que c'est exactement ce que vous dites, en fait, notre corps à un moment donné nous a trahis. Et en fait, faut retrouver confiance en soi, en son corps, et se dire que ce qu'on ressent, on le ressent pas pour rien. Enfin, voilà, c'est tout un travail. Et je pense, comme vous disiez, il y a une énorme part psychologique.
Et pour nous, médecins, il ne suffit pas simplement d'écouter, mais il faut entendre ce qu'il y a derrière les mots de nos patientes. Et donc, c'est ce qui est difficile, parce que parfois, on est technique dans l'acte, et puis voilà. Et donc, l'essentiel, c'est vraiment d'entendre derrière la patiente ce qui va faire que on va être cette béquille qui lui permettra d'arriver à une grossesse qui évoluera normalement. Et alors, moi, je propose toujours à mes patientes de venir autant qu'elles le désirent quand elles sont enceintes, c'est-à-dire en dehors de leur rendez-vous, si elles ont besoin de faire des échographies toutes les semaines. Et j'ai les deux attitudes. J'ai la patiente qui va dire, je viens toutes les semaines et parfois même ça suffit pas, elle appelle entre les semaines. Et puis j'ai la patiente qui dit, finalement non, je suis dans le tunnel, jusqu'à 12 semaines, je l'affronte sans regarder et je verrai à 12 semaines. Donc on a vraiment les deux attitudes, il faut accepter, c'est la patiente vraiment, nous on propose, on est vraiment des accompagnateurs, on fait passer le guet. Et donc... on propose et on discute avec la patiente de ce qui va lui permettre d'être le mieux possible, de dormir le mieux, que ce ne soit pas un problème dans le couple, que cette angoisse, elle ne la projette pas sur son compagnon. Je dis à mes patientes, envoyez-moi des mails quand vous avez peur. C'est pas la peine de l'assaillir, il ressent pas les mêmes choses que vous. Il a pas ses hormones, il a pas senti qu'il était enceint. Parce que c'est ça aussi, on en a pas parlé, mais l'incompréhension... Dans le couple, c'est souvent ça, parce que la patiente, immédiatement, elle se retrouve dans un état avec les nausées, les hormones au plafond, de symptômes qui ne sont pas du tout le corps qu'elle connaît en dehors d'une grossesse qui débute. Et son conjoint, son partenaire, le père de l'enfant, lui, il ne perçoit rien. Donc, ça n'a pas le même impact, l'interruption. Surtout s'il entend le médecin dire « bon, bah c'est rien, enfin, n'en parlons plus, ça arrive à tout le monde, enfin, voilà ». Donc, c'est tout ça aussi qu'il faut...
Oui, en tout cas, là, j'entends aussi l'importance d'inviter les conjoints dans les cabinets des gynécologues, qu'ils ont leur place, et que c'est important aussi qu'ils puissent, même s'ils ne le vivent pas dans leur corps, qu'il se passe quelque chose et que ça n'est pas rien.
Et je m'adresse à eux, moi, toujours, pour, en même temps que j'ai fait l'annonce à la patiente, je m'adresse à eux pour leur demander ce qu'ils ressentent et leur dire que c'est normal aussi qu'ils ne ressentent pas la même chose avec les mêmes... larmes que leur partenaire,
mais
que
intensité.
Voilà, la même intensité, mais que ils peuvent aussi exprimer quelque chose.
Dans ce que vous disiez de cet accompagnement qui va vraiment s'adapter aux besoins de la patiente, pour qu'elle soit le plus possible rassurée, là, je pense à certaines de mes patientes qui ont eu envie d'acheter des petits appareils pour écouter le cœur du bébé. Alors moi j'ai tendance...
Ça je déconseille totalement.
Alors
pourquoi
moi aussi,
parce que c'est très très difficile d'écouter le cœur du bébé jusqu'à 12 semaines. Elles vont écouter leur aorte qu'elles vont entendre et elles n'entendront pas le cœur. Donc sincèrement, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a que l'écho, au début l'écho endovaginal, ensuite l'écho par voie abdominale, et vraiment au début c'est l'écho endovaginal. Donc vraiment non.
Alors, je leur dis exactement ce que vous venez de nous dire, mais je leur dis aussi que c'est pas pareil quand on est seul avec son petit appareil et qu'on comprend pas ce qu'on entend, que quand on est avec un médecin qui va mettre des mots, qui va expliquer, avec qui on va aussi pouvoir partager, déposer son angoisse, voilà, que ça aussi rien à voir. Alors, dans ce que nous disait Flora, il y a eu dans, je peux dire, le traitement de la fausse couche, plusieurs, vous Flora, vous avez... Il y a eu plusieurs choses, une fausse couche spontanée, des arrêts de grossesse qui ont amené à une prise de médicaments, un curetage.
Alors,
vous pouvez nous en dire
en général, ça dépend du stade à laquelle la grossesse s'est arrêtée. Si on est très très tôt, avant 8 semaines, on sait que l'expulsion va pouvoir se faire normalement, facilement, avec la prise de médicaments qui sont des prostaglandines, qui va déclencher des contractions et entraîner l'expulsion. On sait qu'après 8 semaines d'aménorrhée, c'est beaucoup plus difficile et parfois l'expulsion n'a pas lieu, elle est incomplète, il faut faire un curetage, qu'on appelle un curetage évacuateur, c'est pas encore un très joli terme, mais c'est celui-là, et donc on va préférer, mais toujours en ayant discuté avec la patiente, c'est la patiente qui décide, informée de ce que je viens de dire, on va adresser la patiente pour faire cet acte avec une anesthésie, Parce qu'il faut savoir que quand le médecin à l'échographie va découvrir qu'une grossesse est arrêtée, il y a un temps qui peut être très très long si on ne fait rien, de plus de 15 jours parfois, avant que des premiers saignements n'apparaissent.
Oui, et ça peut être extrêmement difficile à vivre.
C'est très difficile à vivre, parfois les hormones restent quand même importantes, avec des nausées, des seins tendus, des inconforts. Donc, c'est vraiment très, très important d'arriver à stopper.
Si je comprends bien, une femme à moins de 8 semaines peut également demander un curetage, même si c'est pas l'option thérapeutique.
Oui, alors là, on va quand même lui expliquer que c'est un petit peu dommage de faire, c'est toujours le bénéfice-risque en médecine que l'on pèse. Mais on peut l'accepter aussi. Mais on va peser le risque d'un acte endo-utérin d'aspiration avec quelque chose dont on sait, parce que le sac est très petit, que ça va être extrêmement facile.
C'est vrai que la prise de médicaments, c'est aussi un moment assez particulier. On est à la maison, on est seul ou accompagné à ce moment-là, enfin, et on attend. Et on peut attendre longtemps, et c'est aussi un moment particulier.
Normalement, on ne doit pas être seul, d'ailleurs.
Oui, enfin, on est...
Parce que ça peut déclencher des hémorragies, des douleurs très très fortes qui peuvent être syncopales. Donc, non, je demande toujours qu'on soit certain qu'une amie, le conjoint, enfin, soit présent.
Quand il y a cette prise de médicaments et que les choses se font à la maison, est-ce que on sait dans quel délai un peu les choses doivent se faire?
Oui, mais c'est très fluctuant d'une personne à l'autre. En général, après la prise des médicaments, dans les 2-3 heures, des contractions doivent apparaître, mais ça peut être beaucoup plus long. Parfois, il faut reprendre des médicaments. Donc, le médecin doit être là pour répondre au bout du fil à la patiente qui va avoir quelque chose qui se fera pas facilement et l'accompagner.
D'accord. Alors que ça soit les médicaments, que ça soit le curetage, est-ce qu'après il y a des conduites à tenir pour que les choses se passent bien?
Alors en général, on demande que le mois qui suit, il n'y ait pas de grossesse, mais on considère que le curetage ou l'expulsion, c'est le premier jour du nouveau cycle. Donc ces saignements-là. Et donc en général, on demande juste de ne pas tomber enceinte. Mais il n'y a pas de... Autrefois, on était très strict là-dessus. Et encore une fois, ça dépend aussi du stade. Hein. Sur une grossesse tardive, on ne dira pas la même chose. Parce que le curetage est quand même beaucoup plus lourd. Ou sur la fausse couche tardive, vers 20 semaines... Hein. C'est jusqu'à 22, on va quand même presque... Enfin, c'est un accouchement, pratiquement. Ouais. Donc là, on va avoir des délais beaucoup plus longs. Mais on va dire que sur ce qui est le plus fréquent, les fausses couches précoces, on peut vraiment, même s'il y avait une grossesse qui survienne tout de suite, ça n'entraînerait pas de problème lié à l'acte ou à l'expulsion spontanée. Mmh.
En tout cas, ça, c'est une question qui revient très souvent. Quand est-ce qu'on peut recommencer?
Voilà.
Est-ce
on que peut, c'est voilà, il n'y a pas besoin de prendre une contraception, il n'y a pas, si tout s'est bien passé, on peut recommencer.
On peut recommencer d'un point de vue médical, mais voilà, on voit aussi parfois, voilà. Moi, je vois qu'il y a des décalages aussi au niveau psychologique.
Exactement.
Où on peut avoir envie, mais pas forcément se sentir prêt, pas avoir retrouvé la confiance nécessaire
et puis,
pour
parfois,
aborder une prochaine grossesse.
J'ai parfois des patientes qui, à la troisième, fausse couche, me disent, nous arrêtons notre projet pour un moment et j'ai besoin d'une contraception. Donc j'ai aussi ce questionnement très très fort et c'est là que je demande à voir le conjoint pour qu'on en parle à trois. C'est vraiment quelque chose qui vous a traversé, j'imagine, Flora, en vous disant, voilà, moi j'en peux plus de ces ascenseurs émotionnels, hein, quand je vous entends, de cette souffrance, de y croire, puis plus y croire. Et donc, je préfère faire une pause et voilà.
C'est ce qui s'est passé, moi j'ai attendu du coup un an et demi avant de commencer à se relancer dans le projet. Oui.
Il a été important pour vous, ce temps de pause?
Oui, du coup ça m'a permis de me reconstruire, de faire le travail qu'on a pu faire ensemble et... De repartir, j'avais la sensation de repartir sur des nouvelles bases, en fait. On recommençait comme si ce qui était derrière, c'était vraiment derrière. Après avoir travaillé ensemble, ben du coup, je recommençais le projet.
C'est un véritable travail de deuil qu'il faut faire,
Oui, tout à fait. Merci Flora pour vos témoignages. Merci beaucoup aussi Christine pour tous ces éclairages. Souvent, je recommande une lecture ou un conseil à mes patients. Qu'est-ce que vous auriez envie peut-être de dire, le conseil que vous auriez peut-être envie de donner, Christine, aux auditrices et aux auditeurs?
Alors vraiment, pour ce cas particulier, j'ai pas de livre particulier que je recommande, et c'est plutôt l'échange avec le gynécologue en qui la patiente doit avoir confiance et surtout le travail formidable de Mathilde dans cet accompagnement en périnatologie.
Merci Christine. Vous Flora, est-ce que...
Ben, je vous rejoins complètement. C'est de vraiment de se faire accompagner quand ça se passe, de pas hésiter à en parler à d'autres femmes parce qu'on se rend compte que finalement on n'est pas seul et libérer la parole par rapport à ça. Voilà.
L'importance de la parole à l'extérieur, mais aussi dans le couple, comme vous nous avez dit, Flora, et puis parfois auprès, évidemment, des professionnels. Et puis, pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, Christine, si on n'est pas bien avec son médecin, pas hésiter à changer.
Oui. Se faire confiance, absolument.
Merci beaucoup encore Flora pour votre témoignage. Merci beaucoup Christine. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne et que vous travaillez à Paris dans le 6e arrondissement. Merci à toutes les deux d'être venues échanger sur ce thème des fausses couches et des grossesses arrêtées.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.